Mesdames, messieurs, nous allons aborder maintenant notre deuxième axe qui traitera de questions plus larges entre racisme et politique. Ces questions ne concernent peut-être pas directement les jeunes en tant que tels, mais présenteront peut-être des pistes de réflexion intéressantes sur la question du racisme en général. Commençons d'abord avec un récent sujet d'actualité. On l'a vu lors des dernières élections législatives fédérales d'octobre dernier, la question de l'immigration a constitué l'une des principales préoccupations de l'électorat. On a pu voir dans les rues de nombreuses affiches, et notamment celle dont l'un des représentants est avec nous ce soir, Johan Silly, pour les jeunes UDC vaudois, où l'on pouvait voir la caricature d'un djihadiste portant un brassard Union européenne qui s'apprêtait alors à décapiter une jeune blonde bâillonnée vêtue d'un drapeau suisse, le slogan revendiquant, je cite, « garder la tête sur les épaules ». Je vous évoque cette affiche en particulier puisque c'est l'une des plus récentes, mais j'imagine que tout le monde dans la salle a d'autres souvenirs de campagne plus anciennes comme celle des moutons noirs ou des minarets. J'en arrive donc à une question très simple. Ces affiches sont-elles discriminantes à vos yeux, Aline Rion ?
Oui, à mes yeux, elles sont discriminantes. Elles font un amalgame entre étrangers et criminalité. Je pense que pour des étrangers qui fuient un pays en guerre et qui arrivent à l'aéroport de Genève ou par d'autres voies et qui voient ces affiches dans les gares et dans toutes les rues, je pense que c'est quand même un message violent.
Et vous, Johan Silly, comment interprétez-vous ces affiches ? Vous ne les trouvez pas vraiment provocantes ?
Disons, pour celles que vous avez longuement décrites, j'en ai donné moi-même l'autorisation de publication, étant donné que c'est ma section cantonale qui l'a lancée. Donc, je pense que, d'une manière générale, chaque affiche, chaque provocation, quelle qu'elle soit, est acceptable tant qu'elle est liée intrinsèquement à un fond qui lui-même n'est pas provocateur et concret. Si nous avons un fond concret, précis et non extrémiste à exprimer et que c'est la seule manière, d'une manière ou d'une autre, pouvoir le faire passer, je pense qu'une provocation peut être acceptable, toujours avec un certain rapport de proportionnalité. Pour ce qui est de cette affiche en question, nous avions aussi d'autres craintes. Il faut se rappeler qu'il y avait plus de 22 ou 23 listes qui se présentaient au Conseil national, dont 3 listes dont les idées au sujet de l'immigration, des étrangers et autres vont beaucoup plus loin que celles de mon parti.
Donnez-nous un exemple.
Le Parti nationaliste suisse qui demande l'immigration zéro et le renvoi quasi systématique de toute personne n'étant pas suisse. Pour le deuxième point, j'en suis pas effectivement sûr, mais chez certains des membres, c'est une des idées qui peut arriver. Ce sont des listes qui ont investi beaucoup plus que jamais, que dans toute l'histoire vaudoise, qui avaient une chance de faire des sièges, ou en tout cas de s'implanter durablement dans le canton, et de pouvoir utiliser le contexte politique actuel de méfiance envers les élites politiques. On se rappelle de toutes les turbulences qu'il y a eu pendant la campagne dernière. Et j'ai donc pris la responsabilité de faire une affiche qui allait fortement, disons, toucher les gens, mais qui au moins pourrait reprendre le débat et recentrer la chose pour éviter que ces petits partis extrémistes puissent s'implanter durablement, en sachant que nos idées qui vont derrière étaient concrètement expliquées et qu'aucune n'a pu être attaquée ou condamnée pour extrémisme, racisme ou je ne sais pas quoi. Et la dernière chose que j'ai envie de dire sur cette affiche, nous n'avons pas utilisé un acte mauvais, nous n'avons pas été prendre une situation mauvaise, discriminatoire, pour décrire les étrangers. Nous sommes allés prendre une image qui fait peur, qui est quelque chose actuel de dangereux, à savoir ce terroriste, pour attaquer une situation que nous n'aimons pas, qui est l'Europe. C'est-à-dire que nous n'allons pas été attaquer et assimiler l'étranger avec quelque chose d'autre, mais nous avons utilisé le terroriste, qui est l'image mauvaise, pour assimiler l'Union européenne. Donc si d'une manière ou d'une autre on pouvait être condamné, ce serait par l'Union européenne. Il faut savoir que si on analyse cette affiche, c'est clairement l'Union européenne, les institutions européennes et l'accord cadre qui sont visés. C'est uniquement de ce côté-là que je pense que nous pouvons être très fermement condamnés, et ça je l'assumerai pleinement, car je trouve que ces institutions ont agi d'une manière très, très regrettable ces dernières années.
Vous pouvez nous expliquer, du coup, à partir de cette affiche, le lien qui n'est peut-être pas clair pour tout le monde entre Union européenne et une caricature de djihadiste ?
Disons que nous avions une première affiche. Les personnes qui ont suivi notre campagne ont vu que ça s'est fait en deux temps. On a commencé avec une première affiche où trois ombres derrière la Suisse, ombres affublées des mêmes étoiles européennes, tenaient la Suisse en otage. Le slogan était « Restez libre ». Cette affiche, ainsi que sa description, a très largement été comprise, avec raison, comme le risque pour la Suisse d'être liée par les institutions européennes, notamment quand on l'a développée, notamment par les accords cadres, l'accord cadre qui est en train d'être négocié avec l'Union européenne et qui impliquerait que toute nouvelle loi européenne concernant la Suisse s'applique directement en Suisse. Nous avons voulu refuser cela et nous avions fait cette première affiche. La deuxième était un rappel, où nous avons été encore plus loin, encore plus fort, d'une manière très discutable, j'accepterai la critique à ce sujet, mais nous avons été plus loin pour montrer que la Suisse, en tant que démocratie, en tant qu'État souverain, en tant qu'État de droit, cette Suisse-là, si nous lui appliquons les accords institutionnels avec l'Union européenne, n'existera plus, n'aura plus sa souveraineté, n'aura plus son indépendance, et donc, d'une certaine manière, aura perdu sa propre tête. C'est ce que nous avons voulu amener par là, d'une manière critiquable, d'une manière qu'on peut discuter, mais moi, je pense que s'il fallait la refaire demain, dans le même contexte électoral, avec les mêmes risques d'implantation de mouvements d'extrême droite, et dans le même risque également de destruction de la démocratie suisse, je pense que je la republierais.
Romain Piou.
Moi, je trouve qu'on a affaire ici à une affiche qui n'est pas seulement populiste, mais qui apporte un réel danger dans le sens où ça attire volontairement et tout à fait consciemment, le vote de racistes primaires pour l'UDC qui vont faire extrêmement bien l'amalgame en disant que l'Union européenne, c'est des djihadistes, c'est l'entrée de djihadistes dans l'Europe, c'est des gens qui vont faire sauter des bombes sur la gueule, c'est une immigration incontrôlée qui va finir par... décapiter la Suisse et les Suisses. C'est un petit peu l'impression qu'on a avec cette affiche. Et je pense que le lien est très clair, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive avec l'UDC. On avait eu une affiche plus ancienne des jeunes UDC qui donnait l'image d'une personne qui faisait le service civil comme un drogué qui n'était pas capable de prendre de ses responsabilités et qui est vraiment une insulte pour beaucoup de gens. Donc, c'est vraiment pas la première fois qu'on a ce genre d'affiche que je trouve très rétrograde, qui d'ailleurs, à mon avis, ne serait pas acceptée dans un certain nombre de pays démocratiques qu'on connaît aujourd'hui en Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, elle crée simplement. L'idée, c'est de dire ah bah tiens, on agite l'opinion populaire, parce que de toute manière, l'opinion populaire, on a déjà réussi à lui faire comprendre que les réfugiés, de toute manière, on n'en voulait pas. On a déjà réussi à leur faire croire que l'islam, c'était l'islamisme. Donc à partir du moment où ces amalgames sont faits, à partir du moment où ces liens ont été faits volontairement par l'UDC, et d'ailleurs on pourra le voir si on discute tout à l'heure d'une autre affiche, mais la volonté elle est là de dire aux gens, on fait le lien entre ça et ça, c'est facile, votez pour nous, ça n'arrivera plus. Et je trouve qu'au contraire, ce n'est plus dans une espèce de démocratie suisse où on a l'impression que chacun est libre d'exprimer son opinion, mais on est vraiment dans un système très populiste où on dit, l'image la plus simple et la plus primaire va nous attirer les voix les plus primaires et les plus classiques à agiter. Et je trouve que ça, c'est vraiment un danger.
Yohann Silly, rapidement, sans faire du ping-pong, mais...
Très rapidement. Je tiens juste à préciser avec un tout petit peu de légèreté pour ce qui est de l'affiche du drogué et de l'armée, le drogué en question ne représentait en aucun cas les gens qui font le service civil, puisque nous respectons toute personne qui le fait. C'était plutôt une caricature du militant du GSSA. Donc je tenais quand même à préciser. De la même manière que le soldat suisse avec sa famille était une caricature tout aussi grossière, simplement dans l'autre sens, je pense que l'électeur suisse est capable de se rendre compte qu'il n'y a même pas un deuxième degré, mais un 5, 6, 7e degré dans cette affiche, et puis que le but est simplement d'attirer le débat sur ce sujet. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'avait pensé.
Aline Rion.
Oui, en fait, avec mes collègues des Jeunes Verts, en préparant l'émission, on a beaucoup parlé de la question de l'accueil, surtout en ce contexte actuel de la crise migratoire, et peut-être de la crise de l'accueil aussi. Et... en fait, on se disait, qu'est-ce qui est mis en place pour favoriser l'accueil? On demande aux gens de s'intégrer. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider à s'intégrer? Est-ce qu'on va vers eux? Est-ce qu'on les aide? Qu'est-ce qu'on propose pour s'intégrer? Et moi, je pense quand même que ces affiches, elles vont pas dans le sens de l'intégration du tout. Et elles dissimulent la peur. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et je pense que ça aide pas les gens à aller vers les autres.
Tout à fait. Mais Loïc Autier, est-ce que c'est pas grave au final que des partis politiques, ici le premier parti de Suisse, s'autorisent l'affichage public de messages stigmatisants, pas selon lui, mais à l'égard d'une certaine partie de nos concitoyens?
Bon, déjà, il faut préciser quelque chose d'assez important. J'ai l'impression qu'on découvre ce soir que la politique est un panier de crabes et l'endroit où la mauvaise foi la plus crasse a cours. On est censé être des jeunes politiciens, personnellement, moi je refuse, disons, ces dénominations-là. La politique, chacun a son avantage quand il gagne des élections, des votations, est très content que la majorité soit de son côté et ne va pas, disons, dans cette occurrence-là, attaquer cette majorité. Alors, j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre. Certes, c'est de mauvais goût, c'est assez laid. Maintenant, ils ont un fonds de commerce qui est, disons, un profil un peu... comment dire ça, on a déjà parlé avant, voilà, un profil un peu plus campagnard, qui a peur des étrangers. C'est un profil xénophobe, je crois. Des fois, ils utilisent trop facilement raciste, comme si c'était des gens qui intellectualisaient la différence entre les races, qui étaient des eugénistes déclarés. Ce n'est pas vraiment ça. On est plutôt en face à des xénophobes, c'est-à-dire des gens qui ont peur simplement de l'autre. Voilà, c'est très simple. Ça peut se comprendre quand on est né dans l'Oberland. C'est clair qu'on n'a pas forcément... on n'a peut-être pas vu beaucoup de personnes d'autres couleurs ou d'autres religions. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand c'est les socialistes, par exemple, qui, je ne sais pas, avec un sujet comme le salaire minimum, qui disaient que les patrons qui ne payaient pas... patrons de PME qui ne payaient pas un minimum 4000 francs, leurs employés étaient littéralement des esclavagistes, alors que c'est des gens qui bossent 15 heures par jour dans leur boîte. C'est aussi quelque chose qui blessera de manière assez, disons, importante les personnes concernées. Donc, oui, la politique, c'est l'air. Et on accepte qu'il n'y ait pas vraiment de limite, disons, à cette démocratie dans beaucoup de domaines. Et je pense qu'on récolte simplement ce que l'on sème. Alors, un jour, il faudra se poser les bonnes questions, savoir quelles sont les limites des missions de l'État, notamment. Sur quoi est-ce que la majorité peut s'exprimer et quels sont les droits des individus, et notamment des personnes qui ne seraient pas suisses. Je serais aussi clairement en faveur, disons, que l'obtention de nationalité soit facilitée, notamment aussi pour les troisième génération, que ça soit presque automatique, ce genre de choses. Mais je crois maintenant venir dire que, à mon dieu, l'UDC, enfin, mauvais usage de la démocratie, je veux dire, il en a les outils, il l'utilise et il a raison.
D'accord. Romain Piou, Loïc Autier l'a dit, hein, cette bonne guerre, et d'ailleurs l'utilisation de symboles extrêmes ne fait pas uniquement le jeu de la droite. Souvenez-vous de la récente affiche d'un publicitaire zurichois qui, dans le cadre de la récente initiative de mise en œuvre du renvoi des criminels étrangers, avait détourné le drapeau suisse en croix gammée, avec en rappel le régime nazi, l'apartheid sud-africain. Est-ce que c'est pas tout autant problématique ?
Disons qu'il y a un certain... ras-le-bol de voir les affiches. Là, on a revu il n'y a pas longtemps justement les moutons noirs qui avaient déjà été tellement critiqués à l'époque par rapport aux messages qui généraient des moutons blancs qui jetaient le mouton noir en dehors de la Suisse. Oui, alors il y a un ras-le-bol qui fait que des méthodes aussi extrêmes sont utilisées. Je dirais que je le regrette qu'on en arrive là, parce que le débat, il est plus sain, j'ai l'impression, à ce moment-là. Oui, alors effectivement, il y a effectivement pour une croix suisse détournée en croix nazie qui a circulé dans les gares de Genève et de Zurich, si mes souvenirs sont bons. On peut en penser ce qu'on veut, mais ça reste une réaction par rapport à une façon de faire la politique que je trouve très violente, est un problème pour le débat démocratique. Et à mon avis, c'est d'un côté comme de l'autre, cette forme de communication devrait peut-être pas totalement disparaître, mais en tout cas se limiter automatiquement et se dire que finalement les Suisses sont assez intelligents pour finalement débattre de choses avec des arguments très clairs et pas juste des arguments populistes et des comparaisons un peu boiteuses.
Tout à fait. En revenant un petit peu sur les différentes affiches de l'UDC de ces dernières années, je suis tombé sur une affiche de l'UDC valaisanne qui avait mis ensemble des photographies représentant des femmes voilées, une femme brûlant le drapeau suisse et une décapitation opérée par Daesh. Il était indiqué sur l'affiche, cite, « L'islam bientôt chez nous, votez UDC pour rester libre ». Johann Tilly, c'est un message quand même assez fort. Quel est le lien entre un djihadiste qui décapite un homme en Syrie et votre voisin suisse de confession musulmane?
C'est une affiche en tant que telle, je n'aurais personnellement pas fait, mais je ne vais pas commenter ou critiquer une décision d'une section cantonale indépendante, sauf erreur même, c'était les jeunes judéistes, je ne suis même plus sûr. Mais pour ainsi dire, cette affiche-là, ils ont eu leur raison, il faudra leur demander, on peut pouvoir la soutenir ou pas. Mais j'aimerais quand même faire remarquer ce point. Comment est-ce qu'un certain nombre de personnes sont absolument choquées quand il y a un lien entre le terrorisme en Europe et entre la politique de sécurité de l'Europe, puisque c'est un lien qui existe tout de même, que les questions qu'on va voter avec les élections au Conseil national sur la sécurité, ces questions auront une influence sur le terrorisme en Europe. Et pourquoi est-ce que parmi ces personnes, certains applaudissent quand on compare une initiative de l'UDC avec un régime qui a tué 6 millions de juifs, avec un régime qui a mené une guerre avec 50 millions de personnes? Moi, je pense qu'on peut soit critiquer les deux, soit accepter les deux, mais le nombre de personnes, d'associations qui s'insurgent à deux vitesses, qui ont la critique sélective, je ne peux pas les comprendre. Moi, je pense que dans la critique, la violence est bien plus grande dans une comparaison avec le régime nazi tel qu'il a existé, y compris pour les victimes de ce régime, où on fait un petit peu croire. Aujourd'hui, dans la Suisse du 21e siècle, vous voyez ce que vous avez vécu, on est en train déjà de le refaire. C'est-à-dire, vous voyez, on sait de quoi vous parlez. Moi, je pense, je connais des gens qui se sont attaqués ça dans tous les sens. Et on ne peut pas accepter une affiche de Croix Gammée en critiquant une affiche avec un terroriste qui est beaucoup plus actuelle. Et au final, ou même si c'est un peu gros, c'est un peu du deuxième degré, c'est du mauvais goût. Je veux bien admettre que c'est du mauvais goût. Mais on ne peut pas ne refuser que la seconde, qui est quand même beaucoup moins éloignée de la vérité que la première.
Aline Rion, qu'est-ce que vous pensez de ces deux affiches ?
Bon, comme les précédentes, hein, moi je les trouve violentes, elles ont un message violent, elles ont un message qui dissimule la peur et qui font des amalgames. Je pense qu'effectivement, il y a une réflexion derrière, il y a un autre sens aussi derrière. Après, je pense que pas tout le monde a le message qu'il y a derrière, forcément, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Et des jeunes qui voient ces affiches et qui n'ont pas forcément le recul pour essayer de comprendre la réflexion qu'il y a derrière, ou du recul pour se dire que c'est pas parce qu'ils sont étrangers que forcément ils sont des criminels, je pense que ça peut même presque pousser à la criminalité.
Tout à fait. Histoire de prolonger un petit peu la réflexion à propos des campagnes électorales et des votations, je crois que nous sommes tous d'accord autour de cette table pour dire que le recours à un débat libre d'idées est essentiel pour le fonctionnement d'une démocratie saine. Mais la question que j'ai envie de vous poser, et à vous Loïc Autier, est celle de la fonction du débat public. Est-ce que le débat public a des limites éthiques par exemple ? Est-ce qu'on peut tout dire ?
Alors, je crois que j'ai déjà fait la différenciation avant, véritablement, entre ce qui est légal et ce qui est moral. Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, je serais pour une interprétation très restrictive de ce qui serait illégal. Maintenant, c'est vrai que certaines des affiches de l'UDC, et, disons, leur manipulation de chiffres également, bon, que l'on trouve également dans les autres partis, c'est toujours, encore une fois, on critique toujours quand c'est les autres, mais jamais quand c'est soi. Mais. Oui, on peut condamner, dire les affiches de l'UDC, leurs arguments, leurs raccourcis des fois qui insultent toute personne douée de raison et d'une certaine honnêteté intellectuelle. On peut condamner et on le fait déjà. Peut-être qu'on le fait pas assez parce que trop souvent, disons plutôt notamment à gauche et certaines associations, a tendance à dire, à se scandaliser, à dire oh, il faut que la loi intervienne et on prend pas le temps simplement d'agir en tant que concitoyen, en tant que partie prenante à ce débat et à dire. Ceci est inacceptable, c'est immoral parce que ça va à l'encontre de encore une fois, je l'ai dit avant, du bien-être général, du vivre ensemble. C'est ça qui est important. Parce que c'est des arguments qui sont utilisés, encore une fois. Et s'ils l'utilisent, c'est pas. Quand on voit, c'est souvent Freisinger qui donne un cours de rhétorique à ses troupes et ensuite il les lâche dans les médias et ça ressort une sorte de liturgie, disons, qu'ils ont apprise. Mais c'est encore la même chose au Parti Socialiste où ils apprennent par cœur des argumentaires. Donc ça, il ne faut pas trop être étonné dans ce sens-là, encore une fois, à cette bonne guerre. Il y a un débat public. Si on pense maintenant que les gens sont 50% plus une personne de la population peut prendre une décision avec une incidence sur chaque individu dans la Suisse, pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas que ces personnes sont capables de former leur propre opinion ? Quelque chose d'un peu contradictoire à mon sens.
Romain Piot, c'est contradictoire ?
Je ne crois pas que ce soit... Enfin, j'ai l'impression qu'effectivement, le débat public, il est plus que nécessaire parce qu'on ne peut pas seulement faire campagne non plus avec des affiches. Qu'elle soit de bonne foi, pas de bonne foi, complète, incomplète, vraie ou fausse, peu importe. Malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent en Suisse, c'est que les campagnes se font avec les affiches et les sous qu'on met dans la campagne. Et c'est malheureusement une tendance qu'on retrouve dans beaucoup de votations. Donc je crois qu'on a besoin vraiment de parler entre nous, de s'exprimer très librement dans le respect de l'autre, dans le respect de la personne à qui on parle. Et je pense que si on le faisait davantage qu'aujourd'hui, si on discutait bien plus qu'on ne le fait aujourd'hui, et si surtout les publicités politiques simples, trop simples, voire simplistes, avaient moins leur place dans le débat en Suisse, je pense que le débat serait plus sain et probablement que les débats se dérouleraient mieux et qu'il y aurait peut-être même moins de conséquences et de conflits entre les individus après telle ou telle votation ou telle élection.
Je vous remercie. Loïc Autier, vous avez parlé de l'égalité tout à l'heure. Ouvrons donc le débat sur la question de la sanction pénale en matière de discrimination raciale. Cet article constitue toujours un sujet polémique entre ses défenseurs et ses détracteurs. Certains le jugent trop laxiste lorsqu'ils constatent par exemple que cet article ne condamne pas des propos tels que cochons d'étrangers, sales requérants ou encore les saluts nazis sans intention de propagande. D'autres, au contraire, affirment que cet article leur donne mal au ventre, à l'image de Christophe Blocher, puisque la norme paralyserait ainsi la liberté d'expression et incarnerait le parfait exemple d'une loi muselière. Loïc Autier, vous en pensez quoi ?
Malheureusement, je rejoindrai Christophe Blocher sur ce sujet-là, qui n'est loin d'être un modèle politique pour moi, bien au contraire, mais qui, il est vrai, en disant que ça lui donne mal au ventre, moi aussi, il me donne mal au ventre. Et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. On peut être tout à fait antiraciste et avoir mal au ventre en regardant cette norme pénale-là. Et c'est vrai que souvent, dans le débat, on dit, si quelqu'un dit « je suis contre cette norme pénale antiraciste », on se fait direct traiter de raciste, ce qui est déjà un peu contradictoire, mais pas forcément étonnant. Et donc, moi, ce qui me semble important, et surtout du point de vue aussi des gens qui réclament son élargissement à d'autres états de fait, on se rend compte que c'est toujours, aller plus loin. On parle, pour l'instant, c'est ethnie, religion et race. On parle après de l'orientation sexuelle, c'est en cours de traitement aux chambres. On parle encore de l'identité de genre, ou pour inclure les personnes qui seraient, avec des problèmes d'identité sexuelle, disons. On pourrait l'étendre ensuite, j'ai même lu des fois, aux féministes, quand on critique des féministes, ce genre de choses. Il faudra se poser la question, soit on a une norme pénale, vu qu'elle protège la dignité humaine, soit elle protège toute personne qui se sentirait atteinte de sa dignité humaine. Et ça peut être toute personne, parce que jusqu'à maintenant, la dignité humaine est propre à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si on critique, on dit sale libéral, si on dit sale socialiste, on est des gens, moi en tant que libéral ou Romain Pillon en tant que socialiste, on s'engage, on lit beaucoup, c'est quelque chose qui fait partie de notre identité. Donc on peut être autant atteint qu'une personne qui se ferait traiter de sale homosexuel ou de sale musulman. Et donc soit on a cette approche qui recouvre tout, et dans ce cas-là, chaque syllabe, disons, qu'on prononcerait, on risque une plainte pénale. Soit on fait une sélection et on dit qu'une certaine dignité humaine mérite d'être protégée. Et c'est déjà faire une catégorisation entre des parties de la population qui me semble absolument, disons, antithétique avec la lutte contre la discrimination.
Aline Rion, vous en pensez quoi ?
Je pense effectivement que toute dignité humaine doit être protégée, que ce soit les différentes cultures. Vous avez parlé aussi des personnes transgenres tout à l'heure, des personnes homosexuelles. Moi, je crois que les normes doivent vraiment s'appliquer à toute forme de discrimination, de manière générale.
Et vous, Romain Pillou, est-ce qu'il faut durcir la loi ou au contraire, est-ce qu'elle restreint la liberté d'expression ?
Alors, je ne crois pas que cette loi elle restreint la liberté d'expression. D'ailleurs, les rapports qui ont été faits autour de cette loi montrent que ça n'a pas été le cas, étant donné que le débat se fait toujours, entre autres, avec des affiches que moi, je juge très violentes, enfin, on en a parlé tout à l'heure. Mais ça veut dire que ce n'est pas des choses non plus qui ont été interdites. Je dirais que ce qui est intéressant avec cette norme pénale, c'est qu'elle permet un certain nombre de choses. Elle a permis des condamnations pour des propos. Certaines plaintes n'ont pas abouti, évidemment, d'autres ont abouti. Je pense que là, c'est de nouveau se dire, par exemple, que la norme pénale antiraciste n'a pas condamné quelques zigotos qui ont fait le salut nazi sur la plaine de Grutli. Ça se discute. Mais ça, c'est aussi la libre interprétation de la loi de nos juges, et je pense qu'elle est aussi importante. On a aujourd'hui cette campagne justement qui a été lancée en 2015 contre le racisme au niveau de la Confédération. Il ne faut pas oublier que cette campagne elle a été lancée parce qu'il y avait aussi cette norme pénale antiraciste et qu'elle a été lancée sur cette base et qu'elle permet aussi aujourd'hui de lutter grâce à de la prévention. Et je crois que pour terminer, je dirais que quand on a une personne comme Christophe Blocher qui nous dit que ça lui donne mal à la tête. Effectivement, je me demande qui c'est qui devrait avoir le plus mal à la tête quand on sait que Christophe Blocher, il y a encore quelques années de cela, était dans un groupe qui soutenait des choses comme l'apartheid en Afrique du Sud ou ce genre de choses. Je crois que ça, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité quand on entend ça, quoi. C'est plutôt à moi que ça devrait donner mal à la tête, quoi.
Yoann Silly, Romain Pillou s'est un petit peu attaqué au chantre. Est-ce que cette loi vous donne mal au ventre, à vous aussi ?
Alors, je vais répondre sur la loi, je ne vais pas répondre sur le passé du Parti Socialiste, ses liens avec la Corée du Nord et avec l'Italie de Mussolini, il fut un certain temps. On va en rester sur la loi. Pour ce qui est de la loi, moi j'ai une chose très claire à vous dire. On ne va jamais faire cesser une idée en l'interdisant. Ça, c'est une certitude. Même en Corée du Nord, il y a encore des chrétiens, il y a encore des minorités. Dans tous les pays, même dans les pays qui sont allés un petit peu plus loin que le 261 bis. Je dis bien un petit peu plus loin parce que vous savez, il n'y a qu'un pas. On ne va jamais faire cesser une idée ou un mouvement, simplement en interdisant. Puisqu'il y a déjà eu quelques rappels et quelques liens qui ont été faits sur les années 20, 30 et suivantes, j'aimerais quand même rappeler aux personnes qui nous écoutent que la plus grande progression qui s'est faite dans le parti d'Adolf Hitler s'est faite pendant la période où il était interdit de parole. À partir de 1926 et jusqu'à son élection, beaucoup de Länder l'avaient interdit temporairement de parole. Et c'est pendant cette période que ces idées ont pu se propager. Parce qu'une idée aussi bête, aussi fausse, aussi incompréhensible soit-elle, ça reste juste une idée, on peut la contredire. Par contre, du moment que l'État, que le pouvoir va l'interdire, on donne une raison objective de se plaindre et on lui dit « Regardez, je suis une victime, on m'a interdit. Et si on peut m'interdire, c'est qu'ils ont le pouvoir. S'ils ont le pouvoir, j'avais raison. » Et ça n'a jamais marché. Pour cette raison, je suis absolument opposé à cet article 261 bis. Pas parce que j'ai envie de pouvoir aujourd'hui faire un salut hitlérien ou je ne sais quoi. Ça ne vient même pas à l'esprit. J'ai envie de l'interdire parce que j'ai envie de combattre précisément ces mêmes choses qui sont en train d'être augmenté par ce genre de loi. Je reviendrai là-dessus sur cette augmentation, mais je crois que Romain, tu veux
oui, dire un mot. Romain Piou.
Oui, j'ai plus l'impression qu'on se retrouve un petit peu dans le même cas que quand on voit ben voilà, encore une nouvelle initiative pour que la Suisse reste souveraine. C'était comment le nom de l'initiative déjà exact ? C'est l'initiative... Bref.
Je suis en allemand dans la tête.
L'initiative pour que le droit suisse et le droit interne soient prioritaires. J'ai un petit peu l'impression qu'on se retrouve exactement dans ce même cas où on dit bon, ben tiens, finalement, cette norme pénale antiraciste, elle me pose un problème parce que selon Johann Sili, effectivement, elle poserait plus de problèmes qu'elle n'en résout. Je suis pas d'accord. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme cette nouvelle initiative qui, en gros, on dit ah ben tiens, on aimerait bien que notre droit interne soit respecté et que ce soient pas les juges étrangers, alors que précisément, c'est les juges étrangers qui sont là pour protéger les minorités et protéger particulièrement les droits de l'homme. Qui nous sont quand même si chers tout à travers l'Europe, y compris en Suisse, et qui permettent à des Suisses, comme à des étrangers, comme à n'importe qui dans la population, de pouvoir se défendre au niveau international si on pense que l'État abuse de certaines libertés fondamentales.
J'aimerais revenir là-dessus, parce que moi je pense que ce sont des lois de beau temps qu'on est en train de faire et qui ne pourront pas tenir à long terme. J'ai l'impression de rentendre ce débat qu'on avait eu il y a une dizaine d'années, quand je commençais à peine à m'intéresser à la politique, je vous avoue que j'ai dû revoir les vidéos pour pouvoir les citer, c'est cette époque où on votait sur Dublin, où le Parti Socialiste et tous les partis, excepté l'UDC, soutenaient les accords Dublin en disant que ce sera magnifique, qu'on aura une clé de répartition humaine pour les migrants, qu'on aura une meilleure collaboration et une meilleure sécurité avec Schengen, qu'on arrivera enfin contrôle, une unité, et que c'est un problème où l'Europe doit être unie. C'est ça qu'on entendait. Et l'UDC s'était opposé à cette époque en disant « Attendez, il y a une chose qui est certaine, c'est que cet accord, aujourd'hui, peut peut-être aller, mais il est évolutif et dans quelques années, il n'ira peut-être pas aussi bien. » J'aimerais dire la même chose pour cet article 261 bis. Que feriez-vous si le Parlement était à majorité absolue de l'UDC, que les juges étaient de l'UDC, et que c'est eux qui pouvaient décider qu'est-ce qui est interdit ? Si c'était un autre parti, moi, le jour où il y a une majorité où le système change, aujourd'hui on vit dans une belle Suisse, dans un beau pays, on vit dans un beau monde, mais on ne sait pas comment sera le monde dans 20 ans, et peut-être qu'il sort un jour où le fait d'avoir donné à l'État le pouvoir de faire taire des gens sera regrettable et sera un des plus grands poids que nous aurons.
Vous êtes d'accord avec ça, Loïc Coutier ?
J'ai encore un micro, oui, c'est bon, pardon. Dans les grandes lignes, je crois que c'est assez exact. On part du principe que la majorité, disons, d'aujourd'hui, qui applique une loi d'une certaine manière, sera la même que demain. Alors que la loi de demain peut être une majorité, disons, tendance totalitaire, qui utiliserait, disons, en ayant mis le pied dans la porte, pourra ensuite ouvrir entièrement la porte et totalement restreindre la liberté d'expression. Donc je pense qu'on a meilleur temps de dire très, très clairement que des paroles envers un groupe de personnes non déterminées n'est pas punissable. Ça, évidemment, ça laisse possible tout ce qui est la répression au niveau de la, notamment la diffamation, hein, calomnie ou menace. Évidemment, si quelqu'un dit qu'il faut tuer tous les Noirs qu'on croise dans la rue, c'est bien évidemment pénalement répréhensible. Ça, il n'y a pas de question à ce niveau-là. Mais on voit en France où qu'on appelait le pays des droits de l'homme, pays de la liberté d'expression, qui est en train de descendre, disons, une route qui est assez plutôt, disons, qui rappelle plutôt le totalitarisme et le fascisme. À mon sens, quand on voit, il disait, ce n'est pas une opinion. Encore une fois, ce n'est pas une opinion. Et ensuite, bloquer des sites internet. Maintenant, on est à l'époque avec la loi d'urgence où on fait des perquisitions au hasard, avec des ordres administratifs qui ne sont même plus des autorisations pénales, ou simplement des écolos qui voulaient s'opposer à un aéroport, se retrouvent perquisitionnés, interdits de sortir chez eux. Voilà. Donc c'est ça. Et maintenant, on va aussi en Turquie, par exemple. En Turquie, ils ont littéralement... l'État a pris contrôle d'un journal en disant... C'est un journal avec un tirage de 600 000 unités, qui ont dit maintenant c'est l'État qui reprend le contrôle de ce journal-là parce qu'il propage une parole qui est contraire à leur public. Voilà. Donc dès qu'on laisse l'État, qui est, pour citer Nietzsche, le plus froid des monstres froids, dès qu'on laisse l'État, on lui laisse la possibilité de manipuler la parole et de la censurer, on laisse la possibilité demain de se retrouver dans un système totalitaire. Car tous les systèmes totalitaires, sans exception, commencent par censurer, avant ensuite la politique du salami, avant de s'oser à des politiques encore plus terribles.
Romain Pignon.
Mais précisément, on ne donne pas du pouvoir à l'État. Ce n'est pas du pouvoir à l'État qu'on donne. C'est pas l'État qui va pouvoir imposer aussi simplement quelque chose. Déjà, on a la séparation des pouvoirs qui empêche un certain nombre de choses, en particulier en Suisse où elle est relativement bien faite. Mais en plus de ça, ce qu'on donne de pouvoir, c'est un pouvoir justement aux gens qui se sentent opprimés et qui se sentent blessés et voire plus des gens qui mettent fin à leur vie pour des insultes, pour des harcèlements. C'est des outils qu'on donne qui permettent au contraire non pas d'imposer quelque chose, mais d'aider une personne qui est en difficulté, qui n'a pas toujours les outils. Parce que je peux vous dire que les personnes qui se font aujourd'hui, par exemple, qui subissent une grosse discrimination liée, par exemple, à l'homophobie, aujourd'hui ont très peu de moyens juridiques de se défendre. Et on peut faire, je m'excuse, mais c'est triste à dire, mais on peut faire un lien avec le taux de suicide chez les jeunes homosexuels qui est plus important que dans la population hétérosexuelle est relativement plus important. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je veux pas rentrer dans le débat forcément de la France, qui effectivement est un très mauvais exemple et où ça se passe extrêmement mal, et je suis très d'accord avec tes conclusions, Loïc, mais en Suisse, on a un outil qui est là pour protéger, comme le font justement les juges internationaux, qui sont là pour protéger les minorités quand spécifiquement il y a un abus des gens ou de l'État.
Je vous remercie, malheureusement le temps presse. Je tiens quand même à aborder une dernière question. En préparant ce débat, j'ai constaté qu'il était beaucoup plus difficile de trouver des informations sur la position des Verts et du PLR concernant la question du racisme et du vivre ensemble. Aline Rion, Loïc Coutier, pourriez-vous nous donner une idée des projets ou des points de vue de vos partis respectifs sur ces questions-là ? Aline Rion.
Actuellement, dans le parti des Jeunes Verts Vaudois, il n'y a pas de projet spécifique à la lutte contre le racisme. Par contre, un des mots-clés quand même du parti des Verts, c'est la solidarité. Et je pense que la solidarité entre les gens, qu'ils soient migrants, étrangers, suisses ou pas, ça permet quand même l'échange, ça permet le dialogue, et je pense que ça permet aussi la prévention d'un bon nombre de problèmes.
Merci, Loïc Coutier.
Il est aussi important que je précise, avant de continuer, que évidemment ce que j'ai dit sur l'article 261 bis n'engage que moi, et je pense une majorité des jeunes PLR, mais pas le PLR, hein, notamment Martin Brunschmigraf au niveau de la Commission fédérale, qui agit de manière tout à fait louable sur la plupart des sujets, évidemment. Ensuite, c'est vrai qu'on a une approche souvent différente. Si nous, on pense que la politique n'a pas sa place véritablement dans la lutte contre le racisme, disons, surtout dans ses aspects de répression, on a plutôt tendance à s'engager à côté dans la société civile, avec les associations qui lutteront contre le racisme. Donc je pense que c'est ça, c'est que, disons, les libéraux ont tendance à ne pas voir la politique comme vecteur d'un véritable combat contre le racisme. On a plutôt tendance à voir, malheureusement, la politique comme une des premières courses de racisme. Et je crois que c'est assez juste. On a parlé des affiches, on peut parler de tous les exemples, n'importe quel État, l'apartheid en Afrique du Sud, etc., où la politique a souvent beaucoup plus causé de racisme que résolu de racisme. Et je pense que puisque le racisme est un mal de la société civile, doit se soigner à l'intérieur de la société civile. Et avant que justement donner des outils, souvent des outils contre le racisme que l'on donne à l'État, qui au contraire permettent plutôt au racisme de gangréner l'appareil étatique.
Je vous remercie. Je vous remercie à tous. Nous arrivons malheureusement au terme du débat avec nos invités. Nous allons désormais laisser la place au public qui est avec nous ce soir pour d'éventuelles questions. Mesdames, messieurs, on fait comme à l'école. Vous levez la main et on vous passera un micro. Je vous remercie. Questions ? Ah, si, une. Je vous remercie.
Oui, Antoine Raymond, je suis le président de la Ligue Cravo. D'abord, je vous remercie beaucoup pour cet excellent débat. Je dois dire que je suis assez profondément troublé, mais c'est sans doute mon âge qui ne me permettait d'ailleurs pas de présider votre table ronde, et donc mon incapacité à le faire. Lorsque un État se donne un certain nombre de lois, c'est pour décrire un certain nombre de valeurs communes. Et la norme antiraciste, elle est issue de la nécessité de mettre un certain nombre de barrières, non pas seulement à la liberté d'expression, mais aussi pour dire quelles sont les valeurs. Et alors moi j'aimerais bien vous entendre sur, alors on peut être pour ou contre, on a bien entendu cette norme antiraciste, quelles sont les valeurs que vous défendez par rapport à l'autre, par rapport à la pluralité culturelle, religieuse de nos sociétés. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, de telle sorte que l'on puisse savoir si vous êtes sur le fond d'accord ou non sur ce combat qui quand même engage l'avenir, non seulement le vôtre parce que vous êtes des jeunes politiciens, mais l'avenir de notre société aussi parce qu'elle est marquée par ce pluralisme culturel et religieux.
Qui souhaite réagir, Romain Pillou?
Oui, donc pour moi ce qui est important c'est se rendre compte qu'on vit dans un monde où aujourd'hui tout le monde voyage, où tout le monde se déplace et où tout le monde potentiellement peut vivre à l'autre bout du monde. Et c'est également le cas de la Suisse. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie, on a entendu le terme de solidarité tout à l'heure, c'est juste d'intégration, c'est aussi juste pour moi. Et je crois que l'objectif principal pour moi, de cette norme et de bien d'autres actions politiques, elle est de se dire, on vit dans un monde commun. On doit vivre ensemble, donc on doit pouvoir à la fois accepter nos différences et nos similitudes, en faire des richesses et des forces. Et je crois que précisément, c'est peut-être l'une des raisons qui fait que je m'engage en politique, c'est pour mettre ça en avant, parce qu'on voit l'inverse tous les jours malheureusement dans la rue, mais on voit aussi des belles choses. Et je crois que c'est ça que je défends, c'est cette... Je ne sais pas si intégration est le mot juste, mais disons que ce partage des valeurs, ce partage ce côté très solidaire, ce côté où finalement on est, c'est peut-être un peu angélique de dire ça, mais de dire qu'on est une grande famille et qu'on vit tous au même endroit et qu'il serait temps aujourd'hui que l'on puisse se comprendre et s'entendre.
Loïc Gauthier.
Beaucoup parlé surtout de cette norme pénale antiraciste d'un point de vue de sa légitimité, de savoir si c'était conforme à ce que l'on pouvait penser de la liberté d'expression. Est-ce que savoir est-ce que une opinion est toujours une opinion, est-ce qu'elle peut être autre chose. Mais on n'a pas véritablement parlé des effets, disons, de cette norme. Et est-ce que ces restrictions à la liberté d'expression sont véritablement, disons, à même de régler le problème ou même d'améliorer un tant soit peu la question du racisme? Et moi, je suis persuadé que non, donc je ne m'y oppose pas seulement par principe, disons. Ça, je suis vraiment convaincu qu'elle peut même avoir plus d'effets négatifs que d'effets positifs, justement parce qu'elle fait taire. Et on le voit encore une fois, je retourne sur la France qui est en train de partir vers une époque qui risque d'être une des pires de son histoire, et on retourne sur l'exemple comme par exemple Dieudonné et Alain Soral, où on dit simplement c'est illégal, ce qu'il dit ce n'est pas une opinion. Et derrière, croire que ceux qui, les gens un peu naïfs, voire très naïfs qui les suivent, sans aucune culture particulière, vont se suffire de ce fait et se dire « Ah oui, c'est pas des opinions, c'est vrai, je vais aller lire autre chose. » Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, ce qu'il faut, c'est un véritable débat. Et le débat ne prend jamais place à l'intérieur de l'État. Le débat prend toujours place dans la société civile. Donc maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que si on veut des valeurs, la vertu, et que l'on veut un vivre ensemble, il se développe par la société, par les associations et jamais par l'État, qui dans la plupart des cas, et presque sans exception dans ce domaine, a plutôt compliqué la situation et exaspéré le racisme qu'il ne l'a résolu.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ?
Oui, voilà. Vivien Vray, enseignant dans un gymnase lausannois. Petite question, si on peut revenir sur la question de l'école, dont vous avez parlé au début du débat. Moi, ce que j'assiste, moi, ça fait 25 ans que j'enseigne. Je suis pour la tolérance religieuse, pour la tolérance face aux signes aussi religieux. Mais on assiste effectivement à une sorte de durcissement d'augmentation des signes extérieurs religieux dans certaines communautés, pas seulement musulmanes, et en même temps une sorte des représentants du christianisme très muets par rapport à tout ça. Au fond, qu'est-ce que vous conseillerez à l'école, aux enseignants, pour conserver la tolérance qu'on a encore finalement à l'école jusqu'à aujourd'hui ?
Je pourrais peut-être parler d'un projet qui a débuté récemment avec l'association Nous Autres. C'est une jeune fille qui a écrit une BD sur son histoire de migration, mais pas seulement, entre le Kosovo et la Suisse. Et maintenant, elle fait des interventions. La bande dessinée s'appelle « Entre ici et là-bas », El Medina, de El Medina Chourachi. Et elle permet de faire des interventions dans les classes, de faire lire la BD aux enfants et de favoriser l'échange entre les enfants, le dialogue sur les parcours migratoires, sur les différences. Et je pense que c'est un outil qui est assez génial, qui a été mis en place très récemment, je crois, dans les écoles de Renan. Et je pense que plus il y a d'initiatives comme ça et de propositions aussi aux écoles, plus... Enfin, je pense que c'est très nouveau quand même, cette question de diversité dans les classes. Et c'est le moment aussi d'inventer des nouveaux outils comme celui-là.
Loïc Coutier ?
Moi, je serais très rapide, mais c'est vrai que par rapport surtout à l'école publique, parce qu'actuellement, si l'on prend une véritable décision, par exemple, de ne plus accepter le voile islamique ou de ne plus accepter un crucifix ou de ne plus accepter, disons, quelques signes religieux que ce soit, c'est par définition il y a des directives du département, mais c'est par définition une décision politique. Et le problème, c'est ça. Est-ce qu'on veut une décision politique ou est-ce qu'on veut, encore une fois, gérer, disons, les situations au cas par cas ? Alors, j'imagine que c'est surtout à chaque enseignant, les enseignants responsables des classes, etc., d'oser le dialogue. Et c'est vrai qu'on s'est un peu coupé de ce dialogue, notamment avec le rôle des parents qui ne sont plus vraiment là en soutien des enseignants, mais plutôt pour les accuser des troubles de leurs propres enfants. Ce qui est important, à mon avis, c'est justement ça. C'est de ne pas imposer trop de solutions politiques, de laisser les écoles gérer cela. Et dans certains cas, évidemment, on a notamment les problèmes souvent de pères musulmans qui ne souhaitent pas que leur fille aille au cours de natation, ce genre de choses, où là, ça devient plus délicat. Au bout d'un moment, on peut, même si je suis très, très libéral, imaginer au bout d'un moment que c'est la liberté de l'enfant. On ne tient pas toujours à la liberté religieuse du parent, mais à la liberté religieuse de l'enfant. Et que des fois, elle doit aussi primer. Il ne peut pas forcément, évidemment, il n'ira pas à l'encontre de son parent. Mais imaginez que des fois, il y a un rôle quand même pour que le parent soit forcé, disons, à laisser son enfant avoir son existence propre et ses propres choix, sans que l'État ne se substitue au rôle des parents, évidemment.
Une autre réponse de Romain Pieux.
J'ai trouvé l'exemple qui a été donné avant qui était assez beau par rapport à cette histoire justement que cette migrante a réalisé en BD, c'est ça, pour ces jeunes. C'est un des exemples qui peut être donné. J'ai travaillé 4 ans dans le monde de l'enseignement et j'ai vu des très belles choses aussi en termes de multiculturalisme, aussi des choses qui sont partagées en cours d'année. Rien que ces journées justement où chacun peut amener quelque chose de sa culture à l'autre, c'est des moments qui sont, j'ai l'impression en tout cas, assez importants et qu'on ne doit pas simplement dire que c'est juste un jour où on va goûter la nourriture des autres pays, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça et peut-être pour avoir peut-être fréquenté pas mal de gens aussi dans ce monde-là, qu'il y a des gens dans le monde enseignant, pas seulement des enseignants, mais aussi des gens dans l'administration, des gens qui travaillent en parallèle, les psychologues, infirmières scolaires, etc. C'est aussi des gens qui doivent être formés à pouvoir parler à ces jeunes, à être à l'écoute et à permettre que ces jeunes puissent être eux-mêmes et partager des choses ensemble. Et je crois que l'exemple qui a été donné avant est un exemple très parlant. On a beaucoup d'autres exemples en Suisse, comme ces journées multiculturelles, ces discussions qu'on peut avoir en classe aussi sur des problèmes. Je me souviens effectivement de là où je bossais, où il a fallu un moment pour expliquer à des jeunes élèves plutôt issus de l'immigration que les problèmes qu'il pouvait y avoir avec l'homophobie et surtout qu'est-ce que ressentaient les jeunes qui étaient touchés par ça ou par le racisme. Et je crois que prendre le temps sur le temps scolaire d'aborder ces questions, c'est quelque chose d'essentiel. Et je ne crois pas que ce soit seulement une question politique, mais que ce soit plus que ça. Et comme on a dit, comme ça a été dit au tout début de cette émission, personne n'est pour le racisme autour de cette table. Et je crois qu'on doit faire fonctionner l'école sur ce principe. Et je pense que prendre le temps avec les élèves, c'est important.
Merci Romain Pillou, c'était le mot de la fin. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Je tiens à remercier à nouveau tout particulièrement nos invités de ce soir, Aline Rion, Johan Tilly, Loïc Autier, Romain Pillou. Merci pour votre participation et pour ces échanges. On peut les applaudir. Merci également au public pour ces questions. La LICRA vaudoise tient quant à elle à remercier la radio Django ainsi que le centre socioculturel Pôle Sud pour leur accueil et pour cette agréable collaboration. Avant de repasser l'antenne à la régie, je vous rappelle que la semaine d'action contre le racisme se tiendra à Lausanne toute la semaine et ceci jusqu'au 21 mars prochain. En attendant, je vous laisse découvrir le programme complet sur le site www.semainecontre-le-racisme.ch. Bonne soirée à tous.